qu'est-ce que je vais faire ici et dehors, si tôt?
Si tôt le matin, avec l'air empli d'un goût de glace, tout juste si la mousse n'a pas été prise par le gel cette nuit.
Qu'est-ce que je vais faire ici et dehors, si tôt?
Marcher.
Voir. Seulement voir.
Chercher des choses importantes pour des raisons décisives.
C'est pour cela.
Nous sommes avec la compagnie Michel Talaron au Musée des Beaux-Arts de Valence, compagnie qui est en résidence depuis le 20 mars jusqu'au 27 avril pour créer un spectacle qui s'appelle « Attends-moi à la porte de la mer ». Pour nous en dire un petit peu plus, nous sommes avec Michel Talaron et puis Marianne Salmon qui travaille également dans la compagnie depuis déjà pas mal de temps. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu cette compagnie, d'où elle vient et sur quels axes elle travaille ?
Donc la compagnie est ancrée dans le territoire viennois depuis une bonne quinzaine d'années. Cela dit, là, depuis on va dire les deux dernières années, nous sommes plus sur une démarche itinérante, un cycle de travail de 3 ans qui s'intitule « Migration poétique ». La compagnie travaille par cycle en fait depuis pas mal d'années. Et la notion de cycle en fait nous permet d'aborder un répertoire en prenant quand même le temps de ne pas être dans une démarche de production, à pondre un spectacle chaque année, etc., mais de prendre le temps de la recherche, de prendre le temps aussi d'associer le plus possible les publics à tout ce qui est en amont d'une création. Donc quand on parle de cycle, il y a en général une ou deux créations sur les 3 ans, et puis il y a des petites formes, des lectures, des ateliers, etc. Donc c'est en fait dans cette démarche-là et dans cette logique aussi d'itinérance le long du fleuve, puisque le cycle migration est un cycle qui se déroule en relation avec le fleuve Rhône, qu'on s'est retrouvé au musée de Valence. En fait, notre approche du fleuve, c'est une approche surtout métaphorique. On se sert du linéaire géographique du fleuve pour construire une sorte de parcours. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir une relation symbolique avec cet élément-là qui est riche en métaphores qui vont évoquer le mouvement de la vie humaine entre la naissance et la mort. Donc le fait d'aller vers la mer, c'est d'aller vers l'ouverture. La mer est une source aussi. Et le projet, si on le pousse plus loin, c'est de faire une tournée méditerranéenne ensuite, d'aller à la rencontre d'autres cultures méditerranéennes avec nos spectacles, nos petites formes.
J'aimerais juste revenir sur la notion de migration poétique. Donc vous avez déjà commencé un petit peu à définir ce que vous entendiez par migration. Et la poésie, en fait, vous la tirez, vous l'extirpez des paysages, des lieux surtout.
Je pense que c'est au-delà d'un collectage de paysages. Je crois que la poésie, c'est un langage étranger, complètement étranger. C'est une langue étrangère qui nous permet de nous relier quand même à des choses qui sont de l'ordre de l'invisible. Et c'est là que réside la poésie. C'est-à-dire qu'on porte un regard sur les choses apparentes, mais au-delà de ces choses apparentes, il y a plein de choses invisibles, comme l'énergie qui nous traverse, et qui ne nous traverse pas seulement nous, mais la nature qui est autour de nous. Et c'est à partir du moment où on peut connecter cette énergie forte qu'il y a un langage poétique. C'est-à-dire qu'on rentre dans une dimension humaine qui est bien plus grande qu'un regard qui est plus quotidien sur... voilà. Donc c'est à ce niveau-là. Migration, c'est l'idée du mouvement. Poésie, c'est l'idée de langage incarné, poétique.
Alors, avant de rentrer peut-être un peu plus dans votre démarche et puis dans le sens que vous donnez à tous ces ateliers qui ont lieu sur Valence, on va peut-être revenir justement sur le déroulé du programme sur Valence, puisque vous êtes en résidence du 20 mars au 27 avril, donc ça vous laisse quand même le temps de proposer aux habitants de Valence un programme très riche.
Alors on a commencé nous d'abord par prendre le temps de prendre nos marques dans ce lieu, de rentrer en relation avec son architecture, les collections qu'il présente, les gens qui y travaillent, etc. Et soit dit en passant, on a été super bien accueillis. Et donc voilà, c'est déjà nous se mettre en position de réceptivité, de recevoir des sensations dans ce lieu. Et puis au terme donc de cette première période de collectage, on va dire, on a proposé 3 lectures fluviales, 3 soirées, qui démarrait par la projection d'un film qui s'appelle L'Esprit du fleuve, qui est un film en fait qu'on a réalisé dans le cadre de notre premier voyage, on va dire, première année du cycle migration. Et ce film, L'Esprit du fleuve, est un petit film de 26 minutes qui est une sorte de, on appelle ça un documentaire de création, c'est un petit film poétique. C'est pas un documentaire au sens classique du terme, c'est plus un collectage d'impressions sur le fleuve et une sorte de carnet de voyage qui nous met en relation aussi avec l'invisible. Les trois lectures fluviales, en fait, sont des petites formes où on est trois comédiens et un musicien et qui reposent sur un montage de textes de différents auteurs qui abordent le fleuve sous différents aspects avec une espèce de progression, c'est-à-dire qu'on démarre par un texte d'Alphonse Daudet, en l'occurrence, Le Petit Chose, c'est un extrait, bien sûr, où il raconte une arrivée à Lyon sur une péniche où, à l'époque où les bateaux avaient encore des roues à aubes, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et la manière dont il décrit avec son regard d'enfant ce fleuve immense et les îles désertes qu'il frôle, etc. On a l'impression d'être sur le Mississippi avec Tom Sawyer. Voilà. Donc on démarre par cette approche-là très, très enfantine, très sensorielle et un peu émerveillée du fleuve. Et progressivement dans les textes, on emmène en fait le spectateur dans une approche du fleuve et de la matière de l'eau de plus en plus symbolique et de plus en plus métaphorique. Après avoir livré notre imaginaire du fleuve à travers les lectures, on propose au public, donc au spectateur, de devenir acteur de ce travail de l'imaginaire, donc à travers des ateliers qu'on appelle Haïku Fluvial. dernière étape, ce sera donc la dernière semaine d'avril, où nous allons être présents donc pendant toute une semaine, où de nouveau on donnera des petites performances dans les collections, des répétitions publiques, et les deux derniers rendez-vous, c'est le samedi 26 et le dimanche 27 avril à 15h, où là il y aura deux représentations de notre création qui s'appelle « Attends-moi à la porte de la mer ».
Donc « Attends-moi à la porte de la mer », c'est le 26 et le 27 avril à 15h. Et donc maintenant qu'on a un petit peu parlé des temps forts de cette escale à Valence, on va peut-être revenir un petit peu sur la démarche qui est la vôtre, notamment lors de ces haïkus thématiques. Est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu dans l'imaginaire du haïku, nous dire un peu ce que pour vous c'est qu'un haïku ?
Alors, haïku, je pense que ça peut avoir plusieurs définitions, mais voilà, le haïku, c'est le petit poème très bref. Au départ, c'est japonais, et c'est agit surtout sur des temps de fulgurance, d'immédiateté, qui peuvent se travailler après, mais immédiatement, c'est une espèce d'éveil, comme ça, d'inspiration très, très rapide, très spontanée, où il y a une relation à la réalité qui prend corps, donc qui devient le réel, et qui élargit le champ du réel. Ce n'est pas du tout un exercice d'analyse, de faire, de fabrication de textes, c'est plutôt du ressenti, de l'éprouver.
Vous assistiez beaucoup sur le vivant avec les gens qui composaient l'atelier ?
Alors bien sûr, ça paraît super important puisqu'il s'agit quand même justement du ressenti. Donc on ressent avec nos sens d'abord, avant tout, c'est-à-dire avec la vue, le regard, avec ce que l'on entend, ce que l'on ressent, ce que l'on touche, etc. Donc le vivant, c'est à partir du moment où on est au centre de cet être qui est capable de capter toutes ces informations et de se mettre en lien, en relation profonde, pour ne plus être une entité séparée, mais un véritable chaîne relationnelle.
Alors comment justement est-ce que vous arrivez, avec des gens issus de plein d'univers différents, à travailler sur ce haïku, à peut-être en créer? J'imagine que vous allez être dans une démarche de création aussi. Quelle démarche vous avez pour faire sortir un petit peu toutes ces choses des gens avec lesquels vous travaillez?
C'est un travail d'acteur au départ, hein, bien sûr, mais quand on n'est pas acteur, c'est vrai qu'on arrive et qu'on peut être un petit peu embarrassé par des habitudes, des mécaniques du corps. Donc, dans un premier temps, c'est tenter, si c'est possible, de désencombrer ce corps qui peut être uniquement dans des habitudes, dans des mécaniques. Donc, c'est un travail sur de la détente, c'est un travail sur des sensations, de centre de gravité, d'enracinement, de fluidité. C'est une approche très, très fine, donc il faut y aller par petites doses, par doses homéopathiques là-dedans, pour que les gens soient suffisamment, enfin que le public, que l'acteur qui pratique soit en état de réceptivité et qu'il puisse aller plus loin.
Donc concrètement, vous vous baladez dans le musée, vous vous arrêtez devant des œuvres, comment ça se passe ?
Alors le travail qui se fait avec avec les gens qui sont stagiaires se font dans une salle où il n'y a pas trop de passages. Après, c'est vrai qu'il y a une déambulation autour des œuvres, avec le fait d'écouter une œuvre différemment qu'avec un regard, mais essayer de la sentir, de l'entendre, de faire travailler l'ensemble de notre être par rapport à cette œuvre. Alors là, on fait un petit collectage et on essaye de faire des choix là-dedans.
Alors c'est vrai que écouter une œuvre, c'est pas forcément l'expression qu'on s'attend le plus à trouver. Qu'est-ce que c'est que pour vous écouter une œuvre ?
C'est mettre en ouverture en nous d'autres sensations, d'autres perceptions que celles qui viendraient directement. Quand on regarde quelque chose, c'est vrai qu'immédiatement c'est la vue, mais on peut très bien entendre un tableau et entendre la sonorité qu'il y a dans ce tableau. On peut entendre l'artiste qui l'a peint, on peut entendre l'humeur dans laquelle il était, et puis l'ambiance qu'il a voulu créer. Une œuvre d'art, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose de ce qu'il voyait, qui a voulu le nommer à un moment donné, donc il a ressenti. Il n'a pas ressenti simplement à la surface, il a ressenti profondément. Donc il essaie de restituer tout ça pour faire en sorte que son tableau ne soit pas simplement visuel, mais qu'il ait une vraie perception globale des choses. Dans le meilleur des cas, c'est ça, en tous les cas, le pratique artistique.
Donc vous essayez de repêcher un petit peu ces perceptions de l'auteur, mais aussi vous essayez de titiller un petit peu celles des regardeurs, donc des gens qui vont travailler avec vous sur ces haïkus, dans ces ateliers. Vous pourriez nous en dire quelques mots. Comment vous faites pour apprendre aux gens à écouter le tableau ?
Je crois que la première des choses, c'est déjà à s'écouter soi-même, c'est-à-dire à entendre qu'en soi, il peut y avoir pas mal de bruit, c'est-à-dire déjà pas mal d'a priori ou de préjugés ou de comparaisons. Donc déjà entendre en soi ce tumulte intérieur et puis se poser déjà physiquement, c'est-à-dire faire circuler une énergie. Faire circuler l'énergie, c'est reconnaître qu'il y a un centre de gravité en nous, c'est reconnaître qu'on est dans une verticalité, qu'il y a de la fluidité, qu'il y a des chaînes énergétiques qui circulent en nous. Et ça, ce n'est pas du tout de façon analytique, on n'analyse pas ça, c'est du ressenti. Donc bien sûr, c'est un exercice qu'on va répéter, qu'on va essayer de... Voilà, et sans aucun... avec un regard plutôt bienveillant là-dessus. À partir du moment où on va pouvoir s'entendre un tout petit peu, s'écouter, on va très vite se rendre compte que l'autre peut penser très, très proche, d'une façon proche de nous. Donc... Déjà, première des choses, se poser, écouter notre propre œuvre intérieure et puis essayer d'avoir un regard extérieur. L'art est là pour éveiller la conscience et la conscience nous dit qu'on n'est pas seul au monde, quoi. On partage tout ça.
Alors, est-ce que vous voudriez clore cette interview par, je ne sais pas, quelques mots à lire ou quelques mots à réciter ou autre chose ?
Il y a un texte de René Daumal que j'aime beaucoup, qui dit en gros... René Daumal, c'est un jeune poète proche de... Voilà, qui a vécu dans les années 30-40. Et c'est un... Voilà, c'est proche de Rimbaud. Qui nous dit « Écoute bien pourtant... non pas mes paroles, mais le tumulte qui s'élève en ton corps lorsque tu t'écoutes. Ce sont des rumeurs de combat, des ronflements de dormeurs, des cris de bêtes, le bruit de tout un univers. »
Eh bien, en tout cas, merci. Et donc, ça donne envie de vous retrouver samedi 26 et dimanche 27 avril à 15h. On est où ? On est au musée de Valence ? On est en extérieur ?
Oui, ça se passe au musée de Valence, dans une salle qui est au rez-de-chaussée, tout de suite après la réception, qui s'appelle, je crois, l'Orangerie. Donc là, c'est un spectacle où il y aura 3 comédiens et un musicien également.
par rapport au spectacle, il y a une chose qui est assez inattendue, c'est que au bout de ce cycle de travail, il y a des textes qui sont arrivés, qui sont imposés en quelque sorte, et ce sont des textes anciens. C'est-à-dire que nous travaillons avec l'Ecclésiaste, donc c'est l'Ecclésiaste, c'est un texte biblique du roi Salomon, et le Cantique des Cantiques. Alors pourquoi ces textes-là? Il y en a un troisième dont je vais vous parler. Pourquoi ces textes-là? Et tout simplement parce qu'ils nous parlent encore une fois de ce grand fleuve, quoi, c'est-à-dire de l'Éros. Le Cantique, ça nous parle de l'Éros, du désir de vie. L'Ecclésiaste nous parle de la vanité. Et le fleuve, en quelque sorte, nous parle de ça. Il y a un troisième texte qui est un texte d'un auteur palestinien, d'un poète palestinien qui s'appelle Mahmoud Darwish, d'où est tirée la citation « Attends-moi à la porte de la mer », qui interroge en quelque sorte ces deux textes, cette dualité un petit peu, et qui fait en sorte de réconcilier des contraires là-dedans. Voilà, donc c'est un montage de trois textes, mais qui, au bout du compte, en font un seul.
Marianne Salmon, Michel Talaron, merci pour le temps que vous nous avez accordé. On se retrouve donc très vite, samedi 26 et dimanche 27 avril à 15h, au musée de Valence pour votre spectacle « Attends-moi à la porte de la mer ». À très bientôt.
Lay down now.